Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Paul VI s'est dépensé pour l'Église sans réserve. Le pape François lui a rendu un vibrant hommage ce samedi à la mi-journée, compte rendu dès le début de ce magazine. Dans cette émission, vous entendrez le nonce apostolique à Paris. Nous verrons que la mobilisation des catholiques français contre le mariage pour tous a suscité l'admiration bien au-delà des frontières de l'Hexagone. En fin d'émission, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. À l'occasion du cinquantenaire de l'élection du pape Paul VI, quelques 5000 pèlerins de son diocèse d'origine, le diocèse italien de Brescia, sont venus en pèlerinage à Rome. Le pape François s'est adressé à eux samedi en fin de matinée, à la fin d'une concélébration eucharistique en la basilique Saint-Pierre. L'occasion pour le souverain pontife d'évoquer avec enthousiasme et admiration le souvenir de son prédécesseur Paul VI, un grand pape, a-t-il dit, qui s'est distingué par son amour du Christ, de l'Église et de l'humanité, et ce, dans des années difficiles. Thomas Chabol.
La voix pleine d'émotion, plusieurs fois interrompue par les applaudissements, le pape François a confié que certains discours du pape Paul VI, notamment un de ses discours à Manille, avaient représenté pour lui un grand soutien spirituel et qu'il y revenait sans cesse. Il a ajouté que son exhortation apostolique, Evangelii Nuntiandi, était pour lui le plus grand texte qui ait jamais été écrit. Comme le disait déjà Paul VI, a-t-il dit, le Christ est plus que jamais nécessaire dans les déserts de la sécularisation. Le pape Montini aimait le Christ, non pas pour le posséder, mais pour l'annoncer. Il aimait l'Église d'un amour joyeux et douloureux. Il a vécu à fond les tourments post-conciliaires, les lumières, les espoirs, les tensions. Il se demandait si l'Église, après Vatican II, était réellement enracinée dans le cœur du monde, et cependant suffisamment libre et indépendante pour interpeller le monde. Paul VI constatait que la religion du Dieu qui s'est fait homme avait été confrontée pendant le Concile à la religion de l'homme qui prétend être Dieu, mais que cela n'avait pas été conflictuel. Au contraire, disait-il, l'Église est devenue en quelque sorte la servante de l'humanité. Et le pape François a souhaité que la commémoration de Paul VI contribue à entretenir la flamme de l'amour du Christ et de l'Église et à relancer l'annonce de l'Évangile aux hommes d'aujourd'hui avec patience, avec courage et avec joie.
Ce samedi matin, le pape François a par ailleurs reçu en audience le grand maître de l'ordre de Malte accompagné des membres de sa suite, puis le père François-Xavier Dumortier. Ce jésuite français a été confirmé il y a quelques jours par le Saint-Père comme recteur de l'université pontificale grégorienne pour un second mandat de 3 ans. Après la rencontre avec le pape, vendredi, 150 représentants pontificaux en exercice ou à la retraite ont poursuivi leur sommet de 2 jours au Vatican, organisé dans le cadre de l'année de la foi. Ce samedi matin, ils ont assisté à la messe présidée par le cardinal Bertone, secrétaire d'État du Saint-Siège, dans la chapelle du cœur de la basilique Saint-Pierre, avant de se retrouver dans la salle du synode pour une réunion de travail avec les membres de la secrétaire d'État. Une telle rencontre n'avait pas eu lieu depuis l'an 2000, c'est dire son caractère exceptionnel, aussi bien pour les diplomates du Saint-Siège que pour l'Église. Une rencontre sur laquelle revient Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique à Paris, depuis 2009.
Au-delà de la formalité de l'audience, mais il y avait aussi un esprit de convivialité, de familiarité, je dirais, parce que après son intervention, le pape a laissé, première fois que j'ai vu, la parole aux nonces qui sont intervenus pour exprimer leurs sentiments, leur avis, pour souhaiter enfin quelque chose, des commentaires. Et dans un dialogue qui était direct, et le Saint-Père répondait directement aux différents sujets qui étaient posés par les nonces. Il a souligné ce qui est déjà dans la tâche des nonces de choisir des évêques. Et venant du Saint-Père, c'est un rappel assez important.
Par rapport à votre travail en France en tant que nonce, est-ce que ça vous encourage dans votre travail?
Je trouve une forme d'encouragement, un encouragement à aller devant dans l'esprit, qui est déjà, moi je crois, assumé. La richesse n'est pas toujours facile. Le discernement, on le fait toujours en relation et en dialogue étroite et profonde avec les évêques du lieu, avec le clergé, avec aussi des laïcs engagés. on cherche toujours le meilleur, mais il faut trouver sur place ce que sont un peu les personnes les plus idoines. Mais je dirais que si, j'ai trouvé un encouragement à aller dans cette direction de gens de pastoralité qui savent lire les signes de temps, savent répondre, mais déjà en France, je suis pas là pour faire donner des notes, un jugement, mais je crois qu'on est déjà dans cette dimension. Les évêques sont des gens qui, avec intelligence et avec courage, sont pas répliés, avec des défis, des contraintes, des situations problématiques, mais ils gèrent et ils conduisent leur diocèse respective avec beaucoup de courage évangélique, des initiatives, de dynamisme.
Cette rencontre est l'occasion pour tous les nonces de se retrouver, d'échanger sur leurs expériences. Vous, en tant que nonce en France, vu l'actualité récente du pays, qu'avez-vous à apporter à vos collègues ?
Mais c'est toujours une belle occasion. Et dans le dialogue avec le Saint-Père, quelqu'un a souhaité que cette initiative soit plus fréquente, plus rapprochée, parce que la dernière, c'était l'année 2000. Déjà, c'est un partage entre frères, des partages de responsabilités. Je pourrais dire que pour la France, j'étais beaucoup interpellé par mes collègues pour dire qu'est-ce qui se passe en France, quelle est la situation. Alors, j'ai dû répéter un peu, c'est assez familier pour les Français, mais les autres, tous sont plus ou moins suivis avec attention ce qui s'est passé en France, mais je crois aussi avec intérêt, mais aussi une certaine admiration pour la dynamique et le dynamisme de l'Église en France.
Le nonce apostolique à Paris, interrogé par Xavier Sartre. En France, justement, environ 500 participants de la manif pour tous, selon le décompte de la police, ont manifesté vendredi soir devant le Panthéon à Paris pour exiger la libération d'un militant de 23 ans, Nicolas Bernard Bus, condamné mercredi à 2 mois de prison ferme pour rébellion, assorti d'un mandat de dépôt dans le cadre d'actions dénonçant le mariage gay. La peine infligée aux jeunes étudiants est disproportionnée selon de nombreux analystes. La sévérité suscite l'indignation, y compris dans les rangs des pro-mariages pour tous. Dans une tribune au journal La Croix, les parents du militant parisien lancent un appel au calme. Selon eux, le véritable enjeu est celui de la bonne santé de la démocratie française. Celle-ci est abîmée lorsque des milliers de jeunes et de moins jeunes manifestent pacifiquement sans jamais avoir le sentiment d'être entendu. Un train entier d'enfants italiens est attendu à la gare du Vatican dimanche. 450 enfants et accompagnateurs seront accueillis par le pape François après la prière de l'Angélus. L'initiative du Parvis des Gentils s'appelle simplement le train des enfants et elle est présentée comme un voyage à travers la beauté. Ce voyage entre Milan et Rome, avec 2 arrêts à Bologne et Florence, s'adresse à des enfants marqués par des expériences difficiles d'insertion dans la société ou touchés par des problèmes psychosociaux. Selon le cardinal Franco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture qui supervise le Parvis des Gentils, le but premier, c'est la rencontre. On l'écoute.
Réussir à faire en sorte que les enfants, qui sont un public très particulier et très complexe, puissent vivre une expérience communautaire à travers un itinéraire, un voyage. Et ce voyage est marqué surtout par la dimension de la beauté. Avant, en effet, ils ont été conduits à l'intérieur des cathédrales de leur ville, c'est-à-dire Milan, Florence et Bologne, mais en considérant la cathédrale comme le grand symbole, le grand emblème de la vie de la cité, pas seulement religieuse, mais aussi laïque. En ce sens, c'est un parvis des gentils miniatures dans lequel les enfants, surtout les enfants en difficulté, découvrent ce que signifie être ensemble, c'est-à-dire la société civile, et ce que signifie aussi d'avoir un espace de silence et de méditation ou de prière.
Un autre symbole que la cathédrale, c'est le train. Qu'est-ce qu'il signifie ?
Il treno costituisce sempre, lo dice anche la letteratura di molti paesi.
Le train constitue toujours, comme le montre la littérature de nombreux pays, un grand symbole fascinant, parce que les gens y trouvent, en un certain sens, la parabole de la vie, qui passe à travers les déserts, qui passe sur les ponts, qui passe dans les forêts, devant des paysages admirables, mais aussi dans des lieux obscurs, ténébreux, comme un voyage dans la nuit.
Ecco, per questo motivo il treno è stato scelto anche perché questi bambini.
C'est pour ces raisons que le train a été choisi, et aussi car ces enfants ne sont jamais montés dans un train, ni un train de cette qualité comme un TGV. Et c'est pour eux déjà une première expérience, une expérience radicale, fondamentale, mais qui devient symbolique car ils apprennent à vivre ensemble, et à la fin, ils découvriront la rencontre entre eux et la rencontre avec une figure comme celle du pape.
Figura come quella del pape.
Ces enfants rencontreront donc le pape, c'est important pour eux comme pour lui.
Penso che proprio sia significativo proprio per il linguaggio dei bambini.
Je pense que c'est significatif justement pour le langage des enfants. Je crois que le pape François sait leur parler sans aucune difficulté. Ce sera aussi l'occasion de voir leur réaction. Il faut tenir compte aussi du fait que beaucoup de ces enfants sont étrangers, que tous proviennent de familles difficiles et beaucoup n'ont aucune idée religieuse. En entrant dans les cathédrales, des enfants entraient peut-être pour la première fois dans une église. L'expérience est donc significative d'un point de vue humain pour eux, mais aussi pour nous en tant qu'observateurs.
Et anche per noi come osservatori.
Le cardinal Ravasi est interrogé par Antonino Gallofaro. Lire ensemble les psaumes, c'est le livre pour Dieu que nous vous proposons cette semaine. Interrogé par Catherine Bain, l'auteur Claire Patier nous explique comment les psaumes nous enseignent à lever les yeux pour sortir du monde du péché et nous laisser toucher par la tendresse de Dieu.
Claire Patier, votre dernier livre, Lire ensemble les psaumes. Pourquoi ce choix des psaumes ?
C'est que je remarque avec joie qu'il y a un renouveau de prière chez les laïcs aujourd'hui. Et donc la prière des psaumes, c'est vraiment la manière de se tourner vers Dieu la plus traditionnelle dans l'Église, la plus ancienne. Et je souhaitais aider ceux qui entrent dans la prière des psaumes à comprendre, parce que c'est évident qu'il y a un langage un peu particulier et que la prière des psaumes, c'est un cadeau du Seigneur à condition qu'on comprenne un petit peu le langage.
Alors dans votre livre, justement, vous dites dans l'introduction, les psaumes ne sont pas le reflet d'un monde parfait. Les psaumes sont le fruit de l'expérience de quelqu'un qui reconnaît son péché. Expliquez-nous, vous avez voulu nous donner des clés de lecture dans votre livre ?
Bien sûr, parce que la Bible, qui est absolument géniale, ne comporte jamais de politiquement correct. La Bible est tout à fait opposée au sujet tabou. Et les psaumes prennent compte du monde tel qu'il est, et non pas tel qu'il était au départ comme Dieu l'avait voulu, mais tel qu'il est aujourd'hui, avec son poids de péché, de tristesse, de souffrance. Et c'est tout ça qu'on prend à bras le corps pour le faire monter vers Dieu, pour le transformer en louange, parce qu'on croit qu'il va venir visiter ce monde, qu'il vient le visiter, qu'il le sauve, et qui le transfigure. Les psaumes, c'est le monde entier. C'est libérant, la prière des psaumes. Il n'y a pas de tabou. On dit tout, mais devant Dieu.
Comment avez-vous fait pour choisir les psaumes que vous expliquez dans votre livre ? Pourquoi alors, ces voilà, cinq parties ?
Oui, alors cinq parties parce qu'on dit que les psaumes sont une réponse priée aux cinq livres de la Torah que nous appelons le Pentateuque. Donc un psaume par partie de la Torah, si vous voulez, de la Genèse ou de Deutéronome, et cinq psaumes qui répondent. Alors pourquoi j'ai choisi les cinq qui sont dans mon livre ? Ben, je ne saurais pas dire exactement, parce que je les ai beaucoup travaillés, parce que je les aime et parce qu'ils me paraissent éclairants. Et à travers ces cinq, je pense qu'il y a des clés de lecture importantes pour l'ensemble des 150 psaumes.
Des clés de lecture sur l'homme, sur la prière, sur Dieu ? Expliquez-nous au moins une clé de lecture.
La clé de lecture numéro un, c'est de ne pas confondre la guerre sur terre avec ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est le langage militaire, le langage violent des psaumes qui est absolument indispensable. C'est le langage de l'homme qui a conscience du mal en lui et à l'extérieur de lui et qui lui déclare une guerre sans merci. Du coup, le vocabulaire militaire est extrêmement important. Et la clé de lecture, c'est d'aller chercher dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, où saint Paul rappelle que ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les esprits du mal. Et c'est pour ça que plus rien ne nous choque dans la Bible, et dans les psaumes en particulier. C'est la guerre déclarée au mal sous toutes ses formes.
Que nous disent les psaumes sur l'homme ?
Les psaumes nous décrivent exactement l'homme tel qu'il est, en prenant en compte tout ce qu'il est. Vous avez par exemple le psaume 22 que Jésus a récité en mourant sur la croix. Vous avez les os, le cœur, les viscères, le palais, la langue, etc. Parce que la souffrance dans les psaumes, ce n'est pas une souffrance psy, c'est toujours l'homme entier qui souffre. Et c'est ça, la Bible, la conscience de l'unité parfaite de l'homme, il est un. Hein. Et quand il souffre, c'est tout entier qu'il souffre. Et la Bible, si vous voulez, nous rend compte de cette unité de l'homme et de cette importance d'être justement réunifié autour de la vie spirituelle, autour de l'amour de Dieu, du désir de Dieu, de la soif de Dieu.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par sœur Catherine Aubin. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 23 juin, le 12e du temps ordinaire. C'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 18 à 24. « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. »
L'évangile de ce jour nous permet de méditer sur Jésus qui prie à l'écart, puis interroge ses disciples. Pour la foule, qui suis-je ? Cette question ouvre sur un dialogue qui nous fait découvrir qui est le Messie attendu par Israël et comment nous pouvons nous mettre à sa suite. La foule n'est pas unanime. Certains pensent que Jésus est Jean-Baptiste, d'autres qu'il est Élie, et enfin certains considèrent que Jésus est un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. La majorité des auditeurs de Jésus ignorent donc qui il est. Ils voient Jésus, l'écoutent, mais ne le connaissent pas. Il est important d'éviter le piège qui consisterait à se dire « Mais moi, je sais qui est Jésus ». Peut-être sommes-nous nous aussi dans cette foule qui croit connaître Jésus, mais qui se trompe. Il faut toute une vie pour découvrir le Christ, le Messie miséricordieux qui est venu sauver tous les hommes. Un Dieu qui se fait proche, qui n'est pas responsable du mal auquel nous sommes confrontés, mais qui nous permet de lui donner un sens et de garder la paix, alors même que nous subissons toutes sortes d'épreuves. Puis Jésus pose la question à ses disciples. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre prend la parole au nom de tous et répond « Le Messie de Dieu ». Par cette réponse, Pierre montre qu'il a compris que les temps sont accomplis. Le jour tant attendu par leur père est arrivé. Mais à savoir qui est vraiment ce Messie, Pierre l'ignore encore. Il devra pour cela continuer à suivre Jésus jusque dans sa passion, le renier, puis revenir vers lui avec un cœur repentant. Il lui faudra recevoir l'Esprit Saint pour que l'intelligence des Écritures lui soit donnée. Pierre, lui aussi, est en chemin. Après avoir posé ces deux questions, Jésus propose un premier enseignement adressé uniquement aux disciples, puis un autre pour toute la foule. Jésus défend vivement aux disciples de divulguer le secret de son identité. Il leur apprend qu'il souffrira, sera rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il sera tué et que le troisième jour, il ressuscitera. C'est encore trop tôt pour que la foule puisse accueillir un tel enseignement. Mais les disciples, eux, doivent se préparer. Viendra le jour où ils réaliseront que Jésus avait prédit tout ce qui devait arriver. Ils devront alors témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. L'enseignement que Jésus donne à la foule est différent, mais tout aussi exigeant. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. La foule, comme les disciples, ne peut pas tout comprendre. L'invitation à porter sa croix n'a pas encore pris toute la signification que la passion du Christ lui donnera. Mais la foule sait déjà qu'elle est invitée à tout laisser pour mettre Jésus à la première place. Celui qui met en pratique cette parole hérite du royaume dès ce monde-ci. Il vit les béatitudes qui donnent un bonheur présent et promettent un bonheur parfait pour le futur. Renoncer à soi-même est donc source de bonheur. Voilà un chemin qui n'est pas facile, la porte est étroite. Mais c'est ce chemin que le Seigneur nous propose, lui qui est notre Créateur et qui nous connaît mieux que nous-mêmes.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Merci de votre fidélité et bon dimanche.